Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le réveil culturel. Ce matin, en compagnie de l'auteur de bande dessinée Riyad Satouf, à l'occasion de la sortie du tome 5 de l'Arabe du Futur aux éditions Alary depuis hier. On peut désormais le commander en ligne ou mieux chez son libraire habituel en click and collect. Bonjour Riyad Satouf.
Bonjour Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
Les quatre premiers tomes de l'Arabe du Futur se sont vendus à 2 millions d'exemplaires en France et ont été traduits en 28 langues. Après avoir raconté dans les précédents tomes votre enfance dans les années 80, enfance ballottée entre deux mondes, la Syrie de votre père et la bretelle de votre mère, eh ben Riyad Satouf vous évoquait dans ce présent tome votre adolescence dans la France de François Mitterrand et de Jacques Pradel, de 1992 à 1994, du collège au lycée. Comédie et drame comme d'habitude, NTM et Nirvana, les premiers émois amoureux et la peur de ne plus revoir Fadi. Le jeune frère retenu en Syrie par le père, ça c'était le drame révélé dans le précédent opus. D'ailleurs, Riyad Satouf, toute cette série tourne en fait autour de ce drame familial.
C'est vrai que voilà, ce volume c'est l'histoire d'une adolescence. Et les adolescents c'est un peuple qui m'a toujours inspiré et autour duquel j'avais fait de nombreuses bandes dessinées, ainsi que mon premier film. Ce que j'aime beaucoup chez les adolescents, c'est que ce sont des créatures un petit peu fantastiques. Quand on est ado, on est mutant, on est perdu entre deux mondes, l'enfance qui se termine et l'âge adulte qui débute. Et donc c'est une époque de grandes sensations, de grandes émotions. Alors on est immensément triste, immensément heureux, immensément extraverti ou immensément timide. Et c'est vrai que j'ai souvent abordé cet univers-là dans mes livres et j'étais content dans celui-là un petit peu de venger mes autres sujets en me vengeant un petit peu sur moi-même et en racontant mes propres années d'adolescence.
Mais c'est pas un récit d'apprentissage, Riyad Satouf, on revient. Il y a quand même un drame familial qui est au centre du dispositif. Je vous dis ça parce que j'ai appris en lisant d'ailleurs le bel album de Reporters sans frontières. Cette année, il est consacré à votre vie, à votre carrière. Et j'apprends que au tout début, quand vous vouliez raconter votre enfance, c'était pas du tout pour revenir sur ce drame. C'était parce qu'il y avait les révolutions arabes. Et vous dites qu'au début, l'Arabe du futur devait être une bande dessinée de science-fiction sur le monde arabe. J'imaginais ce qui se passerait après les révolutions et comment les Arabes allaient coloniser Mars. J'avais écrit tout un scénario. Et puis, la guerre en Syrie vous a rappelé ce trauma familial. Je ne sais pas si on peut utiliser d'ailleurs cette expression trauma familial pour raconter justement cette histoire qui est au centre de l'Arabe du futur, Riyad Satouf.
Disons que je me suis lancé dans l'Arabe du futur à un moment où j'avais du temps devant moi parce que mon second film avait été un échec au box-office. Alors oui, j'avais fait deux films, je n'ai pas fait que des bandes dessinées. Donc suite à cet échec au cinéma, j'ai eu du temps devant moi et je me suis lancé dans ce projet que j'avais en tête depuis très longtemps. Notamment lorsque la guerre en Syrie a commencé, j'ai dû aider une partie de ma famille qui habitait toujours à Homs, à côté de Homs, à venir se réfugier en France. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de difficultés à leur obtenir les autorisations. Et j'ai eu envie de raconter ce que c'était que d'essayer d'obtenir le droit à des étrangers de venir en France. On croit souvent que la France est un pays dans lequel on rentre comme dans un magasin. Mais en fait, c'est absolument pas le cas. Et j'ai eu beaucoup de difficultés. Mais pour que ces difficultés puissent avoir un intérêt pour un lecteur ou pour intéresser quelqu'un, il fallait que je raconte l'histoire depuis le début. Et c'est ainsi que je me suis lancé dans l'Arabe du futur.
Et donc là, dans ce cinquième tome, c'est les années collège, donc les premières lectures, les coups de cœur littéraires, mais aussi les premiers flirts. On va arriver
à... Ne divulgage pas trop, ne divulgage.
On peut parler de votre découverte de Lovecraft, par exemple.
Alors c'est vrai que moi, souvent, on me demande parfois, si je me sens plutôt syrien ou plutôt français, etc. Et c'est vrai que l'adolescence est l'âge où je me suis rendu compte que j'avais besoin de me choisir ma propre identité nationale, et que cette identité-là, c'était le peuple des écrivains et des gens qui font des livres. Et c'est vrai que toutes les lectures que j'ai eues à l'adolescence m'ont beaucoup influencé sur la suite de ce que j'ai pu faire après. Et donc j'ai découvert des auteurs de bandes dessinées pour adultes qui faisaient des bandes dessinées de science-fiction comme Druillet, Moebius, Bilal que j'adorais. C'est aussi le moment.
Et c'est très présent d'ailleurs dans l'Arabe du futur.
Bien sûr, et c'est le moment où j'ai découvert aussi Howard Philip Lovecraft dont je parle dans ce livre et qui a été très important parce que en tant que figure d'écrivain, moi ce qui m'intéressait aussi c'était les personnalités des écrivains, les personnalités des créateurs. Et alors Lovecraft, il est absolument génial parce que c'est un homme qui a fait une œuvre qui a influencé toute la culture populaire moderne et qui n'a jamais connu le début d'un succès. C'est-à-dire qu'il est mort dans la misère, seul, sans avoir jamais eu quasiment de rapport social. Il avait un physique assez particulier qui était un petit peu effrayant. Je me sentais très proche de ce personnage, de cet homme, qui avait quelque chose de rassurant, parce qu'on se disait on ne peut difficilement plus rater sa vie que lui. C'est-à-dire, responsable d'une œuvre, mais de ne jamais voir qu'elle touche quiconque, c'est quelque chose d'affreux. Enfin, comme dirait Lovecraft lui-même, il y a quelque chose d'innommable là-dedans. Et voilà, tout cet univers d'horreur, de surnaturel, de paranormal, c'est quelque chose que j'aborde dans ce livre.
D'ésotérisme. Mais qu'est-ce qui vous plaisait dans l'œuvre de Lovecraft alors que quand vous découvrez ses premiers livres, c'est-à-dire quand vous avez 14 ans, Riyad Satouf?
Alors un détail très très simple, c'est que lorsque je disais aux gens, alors là, souvent bon les personnes qui pouvaient s'intéresser un petit peu à moi ou mon histoire, la première chose qu'ils me demandaient c'est quoi ce prénom Riyad et Satouf, qu'est-ce que c'est? Parce qu'en fait faut savoir qu'à l'époque, donc il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Twitter, etc. On ne savait pas tout de suite que Riyad Satouf, c'était un nom arabe.
D'autant plus que vous n'aviez pas un physique de jeune arabe à cette époque-là. Alors, d'où le malentendu.
Et donc, en fait, voilà, ça aurait très bien pu être un nom breton. Enfin, je ne sais pas, Riyad, Riyadek, on peut imaginer que ça peut être un mot breton. Et donc, alors quand je disais que j'étais syrien, autre chose, personne ne savait où était la Syrie. En fait, c'est un pays qui était absolument inconnu à l'époque. Alors aujourd'hui, je pense qu'il est plus connu avec le drame de la guerre, mais personne ne savait où le placer sur une carte. C'était inexistant. Donc un jour, j'ai des copains un petit peu plus intello et cultivés que les autres qui m'ont posé cette question. Je leur ai dit que j'étais syrien. Et là, tout de suite, ils ont fait référence à un personnage inventé par Howard Philip Lovecraft qui s'appelle Abdul Al-Hazad, qui est un écrivain mythique inventé par Lovecraft, qui aurait écrit le Necronomicon, qui est un livre maudit. Et c'était un arabe dément qui a écrit le Necronomicon, donc à Damas. Et donc, il savait...
Enfin, un repère.
Voilà, il savait ce qu'était la Syrie, il savait... et de savoir, de lire dans leurs yeux à quel point ils étaient impressionnés que je sois déjà allé à Damas, que j'ai vécu en Syrie, j'étais soudain nimbé d'une aura de mystère total. Et donc, je suis entré comme ça dans le monde des livres de grands à travers cette porte, la porte d'Abdul Al-Hazred.
Surtout, dans l'Arabe du futur, on a aussi vos références musicales, ce qu'écoutait le jeune Riyad Satouf quand il avait 14 ans. Alors, plus pour vos références littéraires et bandes dessinées, je suppose qu'aujourd'hui vous assumez tout, parce que ce sont de bons choix. Et pour la musique, comment vous faites, Riyad Satouf?
Non, j'assume absolument tout. Et c'est l'univers de la culture adolescente, c'est toujours quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est vrai qu'aujourd'hui, je fais mon autre bande dessinée, Les Cahiers d'Esther, et souvent... La vraie Esther me fait passer les clips à la mode, les morceaux à la mode, etc. Et je me rends compte que la musique des ados, des jeunes, elle semble toujours complètement ringarde aux adultes avec le recul. Mais c'est aussi l'Arabe du futur, l'histoire de comment on fait avec très peu de références culturelles pour s'en sortir et une sorte d'évasion par l'expression artistique. Et c'est quelque chose qui a été très important et dont je voulais témoigner dès le premier Arabe du futur, puisque j'avais raconté l'irruption du dessin dans la vie. C'est toujours intéressant pour un jeune, je pense, qui lit ses livres, de savoir qu'il est toujours possible de s'émanciper de ses valeurs ou de ses origines sociales, familiales, culturelles, et que l'art est l'un des moyens les plus puissants pour le faire.
L'art et l'amour. Alors, il y a le personnage, ce premier flirt que vous racontez, Riyad Satouf, ses amis qui vous qui vont vous proposer des lectures, ces professeurs qui vont vous pousser à continuer dans les dessins, est-ce qu'ils vont vraiment être décisifs dans votre choix de devenir un auteur de bande dessinée, ou est-ce que on est encore entre 92 et 94 dans les tâtonnements, je cherche ma voie?
Bah, quand on est adolescent, c'est toujours compliqué de se dire qu'on va faire ci ou ça. Alors c'est un peu l'âge où on commence à demander l'orientation. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard, etc. Alors moi j'ai eu la chance d'avoir une professeure d'art plastique qui avait remarqué que j'adorais le dessin, que j'aimais faire des... que c'était une matière où j'avais des très bonnes notes, etc. Elle m'a conseillé d'oublier toute autre idée professionnelle et d'essayer de faire du dessin. Mais c'était pas, elle l'a pas fait uniquement parce que c'était moi ou que j'étais particulièrement génial, parce que ce que je raconte aussi dans le livre, c'est qu'elle l'a fait également à d'autres élèves. Et je sais que cette prof, alors dans mon collège, il y avait Louise Bourgoin, l'actrice célèbre. Mmh. Alors elle était plus jeune que moi, elle était en sixième, en cinquième. Et Louise m'a dit que cette prof d'art plastique lui avait conseillé d'être actrice. Donc c'est drôle voilà, on croise des gens qui à un moment croient en vous et vous rendre les choses possibles dans votre tête, mais ça peut être le rôle d'un professeur, ça peut être le rôle d'une rencontre, quelqu'un qui soudain vous voit comme vous ne vous étiez pas autorisé forcément à vous voir, et c'est important.
Comment raconter sa vie, le récit de sa jeunesse? On s'arrange comme on peut, on essaye de rester le plus fidèle possible aux souvenirs que l'on a, Riyad Sattouf.
Alors je sais personnellement que quand j'écris l'Arabe du futur, quand j'ai commencé, je savais toutes les étapes par lesquelles j'allais passer jusqu'à la fin de l'histoire. Ensuite, c'est vrai qu'on ne peut pas tout raconter, il faut quand même sélectionner des choses pour que ce soit intéressant pour le lecteur, et donc j'avais... Étant donné que l'Arabe du futur est quand même une bande dessinée que je fais vis-à-vis de moi-même et de mes souvenirs, au contraire, c'est-à-dire à chaque fois où j'ai pu avoir un petit blocage, par exemple, à me dire « Ah là, je ne sais pas comment faire pour aller là, est-ce que je raconte ça ?» etc. Au lieu d'inventer, je me suis réfugié au contraire dans des souvenirs qui pouvaient être plus abstraits ou plus... C'est les moments où je m'attarde sur des odeurs, des goûts, etc. Je voulais toujours garder vraiment ce lien avec la mémoire et les véritables souvenirs, afin que cette histoire que j'avais dans la tête et que j'ai toujours eu du mal à partager avec les gens dans la vraie vie, je la transfère vraiment dans ces livres, d'une certaine façon. Et c'est aussi... Alors moi, personnellement, je suis complètement athée. Je n'ai jamais cru en Dieu, et j'ai pourtant été extrêmement fasciné par le paranormal, l'occultisme. J'ai essayé de faire du spiritisme, etc. J'ai beaucoup lu sur tous ces sujets. Je n'ai jamais assisté au début d'un phénomène paranormal, sauf une fois, je dirais. Et le phénomène paranormal le plus étrange auquel j'ai jamais assisté, c'est ce qui s'est passé avec l'Arabe du futur. C'est que pendant 35 ans, cette histoire n'a intéressé personne. Et qu'une fois que c'est devenu un livre, ça s'est mis à toucher des millions de gens. Mais c'était très difficile à partager comme histoire. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui j'ai raconté toutes ces aventures et qui connaissent toutes les péripéties qu'il y a dans l'Arabe du futur. Et à chaque fois qu'un Arabe du futur sort, ils le lisent et ils me disent « Mais c'est incroyable, jamais j'aurais pensé que c'était ça. C'était... Tu m'as raconté tout ce truc-là, mais je vois pas, c'est incroyable. » Et c'est drôle, de mon point de vue, il y a quelque chose d'un peu surnaturel dans ce rapport au public et à l'autre par l'histoire. Et ça me fait plaisir parce que j'aime tellement la bande dessinée que je crois que la bande dessinée est une sorte de super pouvoir.
Pour parler de la bande dessinée, Riyad Sattouf, on voit bien entre les premiers tomes et ce tome très important, le numéro 5, vous êtes passé, que l'enfance pour vous, c'est, pour aller très vite, c'est Tintin, et que vous allez passer à l'âge adulte, enfin cette transition, cette adolescence, en passant par l'amour, les premiers émois amoureux, et en découvrant la bande dessinée adulte, c'est-à-dire Druet, Moebius, un petit Bilal. Ça tombe bien aussi.
Ben c'est comme ça. Je pense que quand on est adolescent, on quitte le monde des bébés. On a envie de lire des trucs d'adultes, on a envie de lire des bandes dessinées de grands. À l'époque, quand j'étais adolescent, il n'y avait pas de manga, par exemple. Mm-hmm. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si j'avais été ado, j'aurais fait partie de ces jeunes qui sont dans les FNAC et dans les librairies, qui sont assis près dans le rayon ado, vous savez, après les cours, et qui lisent les albums parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens de se les offrir. Et donc voilà, moi, à mon époque, dans les années 90, le top du top, c'était Moebius, Bilal, Druet, c'était les anciens de Métal Hurlant, et c'était des références majeures. Et ils m'ont appris l'importance de l'inconscient dans la bande dessinée. C'est-à-dire, que ce soit Moebius ou Drouillet, ils étaient d'une grande liberté. Là où Hergé était extrêmement rigide, alors il était très libre dans le fond de son histoire, parce que Tintin, c'est une sorte de théâtre psychanalytique, mais dans la forme, Moebius, qui faisait ses histoires surréalistes, sans queue ni tête, apparentes, Drouillet, qui a été le premier auteur à détruire le bord des cases et à faire des pages où il construisait des ponts entre les étoiles, etc. Quand on est adolescent et un peu renfermé sur soi, ce sont des images qui vous poursuivent et vous influencent.
On peut dire, sans dévoiler toutes les histoires de l'Arabe du Futur 5, que ça se passe quand même à Rennes. Et pourtant, du début jusqu'à la fin, le personnage de Riyad, qui a donc 14 ans, est travaillé par tout ce qu'il a vécu en Syrie. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il pense est jugé, ou il imagine qu'il est jugé par ses cousins, par sa famille restée en Syrie.
Oui, bien sûr. Lorsque j'habitais dans ce petit village près de Homs, la vie était extrêmement prude là-bas. Je suis sûr que vous-même, tout fait que vous êtes poursuivi par des choses de votre éducation, pas forcément qui ont un rapport avec ces gens, mais si vous avez grandi dans une famille très libre, vous serez forcément plus différent, enfin vous serez différent face à une société très libre. Si vous avez grandi dans un japonais qui a grandi dans la tradition japonaise à Paris, comment il va interpréter le monde avec un regard japonais? Et c'est vrai que cette dualité de pensée, moi, a toujours été présente, surtout à l'adolescence, qui est un moment où on se rend compte que, voilà, je passe d'un petit village où les hommes et les femmes n'ont aucun rapport sentimental entre eux, c'est interdit par l'ordre social. Et que si on veut connaître une fille, quand on est un garçon, on doit l'épouser, et ça arrive à tel moment, à une société comme la société française, ou à Rennes, où les adolescents sont livrés à eux-mêmes, 50 adolescents dans une maison où ils font ce qu'ils veulent, ils s'embrassent, comment lire une telle situation? Comment vous adapter comme ça? C'était intéressant pour moi d'illustrer ça.
Vous arrive-t-il encore aujourd'hui d'imaginer ce qu'aurait été votre vie, Riyad Satouf, si votre mère avait fait le choix de rester ou de revenir en Syrie?
Jamais, mais j'imagine plutôt si quelle aurait été ma vie si j'avais eu un physique à la Arnold Schwarzenegger, par exemple. On peut toujours imaginer des si. J'évite d'y penser parce qu'en fait, je suis très satisfait de la vie que j'ai eue et que j'ai, et notamment surtout parce que je suis assez fidèle, je crois, à l'adolescent que j'étais. Je pense qu'il serait content de voir que je fais les livres comme je les fais.
Et quel regard vous portez sur votre enfance, par exemple? Il y a toutes ces scènes qui, aujourd'hui, ont une autre interprétation. Ces scènes où vous vouliez plutôt ressembler à Kurt Cobain plutôt qu'au rappeur d'NTM. Parce que les rappeurs d'NTM, avec leurs habits, avec leur jogging, avec leurs baskets, vous renvoyez l'image de ces voyous qui vous ont bien ennuyé, c'est le moins que l'on puisse dire, pour rester chaste pendant votre enfance.
De toute façon, moi, c'est vrai que dans cette bande dessinée, je raconte les choses comme je les ai vécues. J'évite d'analyser, d'intellectualiser les choses. C'est vrai que l'Arabe du Futur, c'est une bande dessinée que je réalise. Je laisse une grande part d'improvisation, justement parce que je m'appuie sur des souvenirs. Et donc, je me dis tout le temps, si ça s'est passé, c'est bien de le raconter. En fait, ça va. J'ai besoin de le raconter. Je vais pas commencer à orienter idéologiquement telle ou telle chose. Moi, je trouve ça très drôle que j'aurais adoré ressembler à Kurt Cobain quand j'étais dans le premier tome de l'Arabe du Futur. J'étais une sorte de petit Kurt Cobain. J'avais des grands cheveux blonds. Il y a toujours.
Mais ce rejet d'NTM, est-ce que c'est un rejet de votre autre culture parce qu'elle était oppressante, parce qu'elle renvoyait à ce drame familial, à ce père, à ce pays?
Non, mais vous avez pas bien lu la bande dessinée, Toufik. Il n'y a aucun rejet d'NTM. C'était absolument pas. C'était simplement que c'était la musique qu'écoutait la fille dont j'étais amoureux. Et que, en effet, ces types me faisaient assez peur avec leur virilité extrêmement exacerbée. Et qui était une virilité, je pense, que j'aurais aimé posséder. Et que je ne pouvais pas. Parce que moi, quand je parlais, on me prenait pour une fille. Quand je marchais dans la rue, j'étais voûté. Donc, je crois pas. Moi, je pense qu'il y a plus quelque chose de l'ordre de l'auto-préservation. C'est au bout d'un moment, on n'interprète pas et quand on est faible, on s'enfuit.
Et puis enfin, donc, je voulais le signaler, puisque c'est déjà la fin de cet entretien, Riyad Satouf, le numéro de Reporters sans frontières, cette année, il est consacré à votre vie, à votre œuvre. Il y a un texte, une lettre de Philippe Druyer. Waouh, c'est ça la consécration. Un texte de Leïla Slimani, un témoignage de Vincent Lacoste, pour qui vous êtes un oncle, un vieil oncle sage. Et puis surtout, il y a des dessins, des documents, et on se rend compte que vos dessins de jeunesse marquent déjà le style Riyad Satouf.
Peut-être, oui, c'est vrai que c'est difficile pour moi d'avoir un regard là-dessus, j'évite de trop regarder ce que je faisais avant. L'Arabe du futur et raconter ces péripéties-là, c'est un projet que j'ai en tête depuis très longtemps.
Grand succès.
Il s'est trouvé à un moment que les coïncidences et le bon moment est arrivé dans la vie pour le faire.
C'est un grand succès, traduit en plusieurs langues, sauf en arabe. Ça vous pose un problème, Riyad Satouf, que l'Arabe du futur ne soit pas encore traduit en arabe?
Non, absolument pas. C'est une question qu'on me pose très souvent. Mais la raison est assez simple et moins peut-être excitante que celle qu'on voudrait bien avoir. C'est que l'Arabe du futur... La langue arabe, il y a très peu d'éditeurs en langue arabe. Le marché du livre est minuscule dans la langue arabe, et très peu de livres traduits en arabe. Et que les rares éditeurs qui étaient intéressés par faire l'Arabe du futur en langue arabe, il y en a eu. On a échangé, ils ne voulaient s'engager que sur le tome 1 de l'Arabe du futur. Et de dire, si ça marche, peut-être on fait le 2. Or, moi, je ne pouvais pas prendre le risque que l'Arabe du futur n'y ait que le tome 1 dans la langue arabe, parce que c'est l'histoire jusqu'au 6. Et donc, ce que j'ai décidé, c'est que lorsque la bande dessinée sera terminée, je la proposerai à la langue arabe. Et il y a plusieurs langues comme ça, il y a également l'hébreu, on me l'a proposé, je ne veux pas prendre le risque qu'il n'y ait que le tome 1. Et l'anglais, c'était pareil, mais la langue anglaise, ils se sont engagés à tout faire.
Et le tome 6 et la fin de cette saga, c'est l'année prochaine, Riyad Satouf?
J'espère qu'on ne sera pas dans la 16e vague de coronavirus, mais sans doute l'année prochaine, oui.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr ou en passant par l'application Radio France.
L'Arabe du futur, le top 5, est sorti hier, enfin est à votre disposition depuis hier, c'est édité chez Alari Édition. Merci beaucoup d'être venu nous en parler ce matin, Riyad Satouf.
Merci Toufik.
Cette émission a été préparée avec Corinne Amard, à distance bien sûr, réalisée par Vincent Abouchard avec ce matin à la prise de son Jean-Louis Delon. Bon vendredi, bon week-end, on se retrouve lundi.